Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Je n'ai aucune réflexion là-dessus.
Non mais, mec, sérieux.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui met sa plus belle robe de sabbat pour aller succomber au noir rituel de The Witch, film d'horreur gothique au gore signé par Robert Eggers, primé à Sundance, qui n'arrive pas tous les jours pour un film de genre. Nous aurait tendance à nous rendre méfiants, mais faisons fi de nos a priori, c'est pas facile à dire, et jetons-nous dans le chaudron en compagnie de mes deux magiciens préférés, Yannick Daran, salut Yannick.
Salut.
Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
Allez, c'est Nos Ciné, épisode 53, et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
The Witch, ça se passe au XVIIe siècle aux États-Unis, dans une nouvelle Angleterre qui se prête toujours aussi bien à l'horreur. Coucou Edgar Poe, Lovecraft et Stephen King. La Witch, la sorcière en question, elle vit dans les bois où se réfugie une famille très pieuse, chassée de sa communauté, et elle va leur faire vivre l'enfer, le vrai.
Oh God, my Lord, I now begin. Oh, help me and I'll leave my sin. For I repent and thou shall be. From evil I will turn to thee.
Avec toute une ambiance religieuse et une langue du XVIIe siècle qui fout un peu les jetons, comme tout le film. D'ailleurs, c'est très joliment fait ce film. Il y a des moments tout à fait terrifiants, quelques facilités, mais pas tant que ça. Et dans l'ensemble, moi j'en suis sorti complètement enthousiaste. Et vous donc, les amis, Stéphane?
Bah oui, effectivement. Alors moi, l'étiquette Sundance, tu l'oublies au bout de 5 minutes en fait dans le film, parce que voilà, c'est pas du tout dans la mouvance de ce qui peut être primé là-bas de manière générale. C'est un premier film.
Oui,
il me semble, c'est quand même assez casse-gueule hein, comme parti pris. Pas tellement l'idée de traiter les sorcières ou ce genre de choses, mais vraiment de le faire donc avec un vrai casting d'acteurs, avec une vraie lumière de cinéma, c'est-à-dire une lumière naturelle. Hein. Tout le film a été tourné en lumière naturelle, donc ça risque de bien faire vieillir le film, je pense. Et l'idée, tout simplement, de le faire. En vieil anglais en fait, et ça aurait pu être totalement ridicule hein, ça aurait pu donner les visiteurs en Amérique,
mais tous les costumes, les thématiques, tout aurait pu être très ridicule.
Voilà,
et mais
là où c'est casse-gueule, c'est que c'est un tout petit film en fait, c'est un tout petit budget. Il a pas un casting de personnes connues, enfin tu vois, il a pas Daniel Day-Lewis dans le rôle du père, ce genre de truc où en fait il aurait pu avoir un filet de sécurité pour dire ouais, mais quand même j'ai un grand acteur, donc ça va aller.
Il a des acteurs de Game of Thrones quand même,
oui, mais dans tous les films maintenant,
oui, mais tu sais, dans Gods of Egypt,
il y en a un aussi. Non mais oui, c'est ce que tu veux dire,
c'est pas des inconnus.
Mais ce que je veux dire, c'est
que qui ont un peu de bagage.
Voilà, c'est un tout petit film, mais y compris tout le monde. Hein, quand je parle de tout le monde, c'est vraiment même les gamins qui sont ils sont superbes, tu vois, ils fonctionnent très très bien. Et du coup, ça fait plaisir en fait de voir un vrai film d'horreur. Alors. Moi, je suis un peu exigeant avec le cinéma d'horreur parce que j'ai vraiment du mal à avoir peur au cinéma, quoi. Mais et je peux pas vraiment dire que
rien
le film.
N'est frais.
Non, mais je peux pas dire vraiment. Non, mais c'est ça m'emmerde parce que j'adore ça à la base. Mais je peux pas dire que le film me fout vraiment la trouille. Mais par contre, il y a des vraies tensions. Il y a une scène pseudo scène d'exorcisme en fait qui est extrêmement forte, quoi. Voilà, donc c'est assez
symbolique, qui est assez perturbante quand même.
En plus, oui, mais voilà, c'est un film assez complet en fait sur ce point de vue là assez minimaliste. Ça se concentre vraiment sur cette famille en fait qui va s'entre-déchirer à travers l'emprise des sorcières, quoi. Et à ma grande surprise, tout fonctionne, quoi. Alors le truc, c'est que c'est un film qui a été pas mal vendu comme un des films les plus terrifiants, et c'est compréhensible aujourd'hui. Quand tu vois que, en gros, les films d'horreur qui sortent, c'est Paranormal Activity et compagnie. Donc, forcément, à un moment donné, quand t'as plus l'habitude de voir ce genre de film, que t'as ça qui débarque, tu vois, ça peut être considéré. Ouais. Maintenant, pour ceux qui sont vraiment au fait du cinéma d'horreur et qui sont des vrais cinéphiles d'horreur, je pense qu'ils peuvent vraiment apprécier le film. Est-ce que c'est un film qui fout vraiment la trouille absolue? Moi, je trouve que c'est pas tout à fait le cas, ouais. Mais ce n'est pas un défaut dans ma conception. Quoi. Ouais.
Ouais, c'est pour ça que moi, je le ferais pas du tout entrer dans cette catégorie-là. Ce film vaut film vaut mille fois plus que d'être simplement catalogué film d'horreur ou film d'horreur pseudo-gore. D'abord, ce n'est pas un film d'horreur dans sa structure. Pour moi, c'est pas un film d'horreur. Dans son traitement, l'objectif n'est pas de créer la peur. L'objectif est de créer une espèce d'oppression. J'ai presque envie de dire philosophique à un moment donné. C'est un vrai film sur le fanatisme, comme j'en ai rarement vu. C'est un film qui va à contre-courant absolument de tout, justement, les films qui rentreraient aujourd'hui dans le circuit cinéma d'épouvante, cinéma d'horreur. Ce n'est absolument pas un film concept. C'est d'une maîtrise en écriture et en réal. Pour un mec de 30 balais qui n'a fait que 4 courts-métrages avant, qui est hallucinante. C'est un parti pris d'une audace dingue pour des producteurs, et qui encore une fois me témoigne le fossé abyssal qui existe dans les envies de création à l'étranger et ce qu'on est capable de torcher en France, où on n'a même pas le millième du quart d'une couille molle. Là, il y a des mecs à qui on dit on va faire un film avec des migrants au XVIIe siècle, qui parle en vieil anglais. Mais attention, en plus, c'est pas un film d'horreur où on va pas jouer sur des mécaniques de genre habituelles, où on va focaliser sur une famille de 4 personnes dans un décor tout pourri au fin fond de l'Oregon et où tout a une vocation à être symbolique, métaphorique. C'est couillu. C'est un film extrêmement intelligent qui, moi, m'a bluffé. Mais alors, voilà, je suis même pas encore dans l'analyse du propos, si ce n'est que ça me semble évident que la question de la religion, du puritanisme est évidente et omniprésente. La mécanique qui m'a le plus bluffé et qui, pour moi, a fait que ce film est complètement... te joue même sur certains codes, à la limite, pour vite partir sur autre chose, c'est que c'est comme si il avait besoin de rapidement légitimer et évacuer son existence financière et la case dans laquelle on va le rentrer dans le monde d'aujourd'hui. Donc ok, film d'horreur. Donc qu'est-ce que je fais au début du film? Je te montre la sorcière, je te montre ce qu'elle fait. C'est horrible, c'est tétanisant. La scène, elle est quand même glauquissime avec le bébé au départ. Ça dure 2 minutes. Donc du coup, en plus,
ça s'ouvre sur la mort d'un bébé. On voilà.
Et ce qui est intéressant, c'est du coup, ça t'ancre une réalité. C'est-à-dire que tu arrives dans un film où tu vois ces migrants, tu vois leurs particularités, tu vois cette sorcière-là, tu y crois. C'est-à-dire qu'immédiatement, tu dis, je ne suis même pas dans une métaphore, je suis littéralement dans un film immersif, fantastique, et on va jouer cette carte-là. Sauf que, immédiatement, elle n'y est plus, la sorcière. Elle n'y est plus pendant tout le reste du film. C'est-à-dire qu'après, on passe quand même plus d'une heure et quart uniquement avec la famille et avec les points de vue, les interprétations, la gestion extrêmement difficile de mon identité vis-à-vis de ce qu'on m'a inculqué, de la croyance. Donc le rapport entre croyance, identité, libre arbitre, c'est le cœur du film. C'est complètement le cœur du film, ça ne parle que de ça. C'est des gens qui vont s'autodétruire parce que tellement engoncés dans des croyances rigides qu'ils n'arrivent pas à trouver un moyen d'exister à travers elles. Donc c'est complètement hallucinant. Et quand le fantastique, entre guillemets, revient à la fin du film, il revient, mais clairement sous forme symbolique, clairement sous forme onirico-symbolique, si tu veux. On ne peut pas dire « Ah, c'est clairement, ça veut dire ça, clairement », enfin, sans spoiler rien, mais la dernière scène avec la jeune fille a évidemment une dimension symbolique. Et cette façon de te poser, comme si je te posais le cadre d'un genre, mais en fait je l'explose et j'en sors immédiatement. Moi, ça m'a fait penser au procédé entre guillemets de Carrie, c'est-à-dire pas du tout dans le rapport du film, hein, bon, même s'il y a la religion, mais dans cette façon de dire j'entre dans un système et que j'explose de l'intérieur pour tacler véritablement mon sujet. Et peut-être que justement un tel film qui aurait été vendu comme un film d'époque en costume avec des religieux qui vont se poser la question du fanatisme n'aurait pas été aussi vendeur que de dire c'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur avec une sorcière.
Mais est-ce que c'est pas un film d'horreur au même sens que Carrie est un film d'horreur?
Mais moi, je considère pas Carrie comme un film d'horreur. Donc après, c'est une question de sémantique. C'est une question de sémantique.
Il faut sortir de ce cadre-là. Parce que le truc, c'est qu'on sent. Enfin, je veux dire, on est entre des gens de bonne compagnie ici. Donc on n'a pas de souci à dire c'est un film d'horreur ou pas un film d'horreur. Pour moi, c'est un film d'horreur. C'est pas le souci. Le truc, c'est que c'est un film d'horreur qui est traité avec un soin. Et ce que devraient être tous les films d'horreur dans l'absolu, hein. Enfin tous les films de tous les genres,
chose qu'on ne voit pas.
Avec un soin pour le drame, pour l'aspect dramatique et pour le sous-texte, pour la thématique et tout ça. Et là-dessus, tout alors, tout ce que
moi,
tu dis le,
moi ce que je dis, ce que je dis quand je dis c'est pas un film d'horreur, c'est que ce n'est pas sa vocation première. Oui, pour moi en réalité, pour moi en réalité
là, c'est pas un film d'épouvantail.
En réalité c'est le vernis par-dessus le alors il utilise parfaitement les mécaniques, mais elles sont pas centrales dans le récit.
Tu as deux trois passages notamment dans l'imagerie aussi païenne, tu vois, où le truc c'est que t'as la, comment dire,
le bouc noir notamment.
Voilà, par exemple, si tu veux, où c'est des trucs où tu vois un peu les limites de ce qu'il traite aussi par rapport à son sujet, parce que le truc c'est que tu sens qu'il est à la lisière du ridicule quand il utilise il y a une scène en particulier.
Hallucinant, le bouc.
Voilà, mais ça fonctionne totalement en fait, parce qu'il en joue avec une certaine suggestion en fait, et voilà, donc ça c'est assez intéressant, mais et puis c'est, enfin, mais moi ce que je veux dire c'est que ce qui moi m'intéresse aussi dans un film comme ça, indépendamment du film, c'est l'idée en fait de démontrer en étant primé. Alors malheureusement le film n'a pas du tout marché aux États-Unis au box office, ça s'est planté complètement le week-end où c'est sorti, mais bon ça c'était un peu couru d'avance, hein, voilà. Mais c'est l'idée de montrer, et surtout encore une fois aujourd'hui, qu'on peut sortir des films comme ça au cinéma avec une véritable exigence de cinéma. Encore une fois, je parle de, enfin, je veux dire, je vais remettre une couche sur la lumière naturelle, quoi.
C'est hallucinant, la lumière.
Là, c'est un truc qui est tellement moins employé aujourd'hui au cinéma que quand ça c'est fait, en fait, tu le ressens, tu le vois tout de suite, quoi. Oui.
Je te fais une parenthèse et je te laisse continuer, mais lumière naturelle, là où c'est important, c'est qu'il y a des cadres qui la gèrent. C'est limite du Rembrandt des fois. C'est incroyable.
Le plan du bébé au début qui se fait tuer. C'est à la fois horrible et en même temps super beau.
Esthétiquement extrêmement bien construit. Ouais.
Et le truc, c'est que pour moi, c'est donc je sens un peu encore d'une fois du cadre de ce qu'est le film en soi, pour dire voilà, c'est bien d'envoyer un signal, de dire on peut faire ce genre de film là. On peut parce que le on peut ramener le cinéma d'horreur à quelque chose qui sort de effectivement des films concept dont tu parlais, les trucs de found footage, les trucs de torture porn. Maintenant ça fait un moment qu'il n'y en a plus, mais voilà, en fait toutes ces modes en fait un peu à la con qui finissent par tuer complètement le genre, ou en tout cas le rendre totalement risible aux yeux de la plupart des spectateurs. Et donc qu'une personne comme ça en mette un soin, il y a fort à parier que son prochain film ne sera pas forcément d'ailleurs
film horrifique. Je pense qu'on découvre un mec qu'il va falloir gravement suivre, et que j'espère franchement que l'échec du film va pas l'empêcher de faire quelque chose rapidement, parce que à 30 balais, je veux dire, au-delà de l'incroyable capacité à gérer son récit, son crescendo, son suspense, sa mise en scène et tout,
et l'émotion,
une compréhension de ses personnages qui est bluffante, quoi. Mais bluffante, les personnages sont d'une justesse incroyable. Et quand tu le regardes un petit peu en termes de structure narrative, la façon dont il te pose des petites scènes anodines et qui ont tout un sens par rapport au point de vue, parce que c'est vraiment un film sur le point de vue, c'est un film sur la perception, sur, alors on parle de fanatisme, mais la perception au sein de ça, et comment c'est traité.
Ça provoque, par exemple, ce petit tout passage vraiment subtil où il fait rien de plus avec ça, c'est ce moment où t'as le gamin, l'aîné des garçons,
le frère aîné,
voilà, qui regarde sa sœur avec un peu d'envie, alors que bon, c'est quand même censé être une famille très pieuse qui récite ses prières tous les jours, etc., etc. Ça participe en fait de l'étouffement total de cette famille qui vit en vase clos, parce qu'elle a été aussi
qu'elle a été chassée
de la communauté,
comme il prépare tout son dernier acte sur la base d'un plan de 30 secondes au début, avec cette gamine qui est en train de prier Dieu en disant, ce qui est complètement dans la logique des témoins de Jéhovah que sont cette famille, de dire « je suis une pécheresse, entre guillemets, j'ai commis des péchés, aidez-moi ». Et ça a l'air anodin, ça a l'air de rentrer dans le cadre de simplement décrire, et en fait, tout ce qu'elle dit dans ce petit moment-là résonne complètement à la fin du film. C'est impressionnant en structure le boulot qui est fait. Enfin, moi, je trouve ça. Moi, j'ai été vraiment bluffé.
Ouais.
Toi aussi. Ouais. C'est super.
C'est une petite claque vraiment étonnante.
Ouais, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant, encore une fois, de découvrir ça au détour d'une sortie. Encore une fois, on va voir si le film va sortir dans mon avis, ça va être un petit circuit quand même. Effectivement, il y a peut-être un coup à jouer à le sortir comme un drame. Mais bon, même là, je suis pas sûr que ça marcherait en France.
Je crois que c'est vendu. Ce n'est pas vendu comme ça. C'est pas prévu. J'ai vu des affiches qui commencent à circuler.
L'époque n'est pas à la réception de ce genre
pas
de réflexion,
pas
en
trop,
fait.
Non, mais bon.
Malheureusement.
Mais en tout cas, The Witch, c'est à voir au cinéma s'il passe près de chez vous. Allez-y, ça vaut vraiment le coup, surtout au cinéma. Et pour terminer, on va prendre un instant pour les traditionnelles recommandations de fin d'émission que Yannick Dahan, évidemment, a oublié. C'est la 53e émission qu'on fait et Yannick Dahan ne sait toujours pas qu'il faut des recommandations à la fin. C'est assez magique. Donc Stéphane, c'est toi qui va commencer, forcément, le temps qu'il réfléchisse.
Dans le côté un peu film d'horreur comme ça avec des sorcières, récemment il y a eu, c'est pas parfait, hein, loin s'en faut, mais il y a des scènes intéressantes dedans. Il y a Lords of Salem de Rob Zombie.
Effectivement, c'est pas parfait.
Non, c'est pas parfait, mais ce que moi j'aime beaucoup chez Rob Zombie, et c'est encore une fois c'est dans ce qu'on disait sur le cinéma d'horreur dans l'absolu, c'est que ce que j'aime beaucoup chez Rob Zombie, c'est qu'il y a une vraie personnalité en fait.
Bien sûr.
Ce qui est finalement assez rare dans le cinéma d'horreur. Qui est quand même malmené par des millions de bouses commerciales,
de tâcherons, ouais.
Voilà, et de tâcherons. Et là, en l'occurrence, bah voilà, je veux dire, quoi qu'on pense de Lord of the Rings, moi, j'apprécie le film dans ses qualités et ses défauts aussi. Effectivement, il y en a plein. Il y a une vraie imagerie fantastique, très forte, très amenée, en l'occurrence avec des sorcières et une imagerie païenne comme ça, y a des images assez frappantes. C'est sorti en DVD Blu-ray, je crois, il y a peut-être 2-3 ans chez nous. Voilà, donc je pense que c'est dispo. Encore une fois, effectivement, ce n'est pas parfait. Ce Rob Zombie restera quand même, je pense, l'auteur de Devil's Rejects avant tout oui. Autre chose. C'est pas de ce niveau-là, hein, c'est pas de ce calibre-là. Mais pour ceux qui suivent le cinéma d'horreur, qui seraient passés à côté, ça reste quand même un film avec une personnalité. Et c'est intéressant.
Indéniable,
à voir, quoi.
Ça voilà. C'est sûr. Yannick.
Alors, je viens juste de retrouver le titre de ma recommandation.
Ah, superbe, magnifique.
Non, mais voilà, pour évoquer typiquement un film qui est similaire, que je trouve clairement moins brillant que The Witch, mais quand même super intéressant, c'est-à-dire dans l'utilisation des codes du genre pour traiter d'une véritable thématique complexe, en l'occurrence la croyance, la religion, le fanatisme. Je conseille, c'est vraiment passé inaperçu, c'est sorti même qu'en DVD en France, ça s'appelle Black Death. C'est une espèce de film médiéval fantastique réalisé par Christopher Smith, si je ne m'abuse, qui était le mec qui avait fait Creep. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Creep.
D'accord.
Et Severance. Ouais.
Avec Sean Bean.
Avec Sean Bean, ouais. Et qui raconte donc l'histoire d'un guerrier qui traverse un pays dévasté par la peste et qui va se confronter à des pseudo-sorcières et tout ça. Donc il y a vraiment pareil. Si on utilise ces codes-là et on
parle. C'était pas mal. Hein,
c'était vraiment vachement intéressant. C'est passé complètement inaperçu. Donc si vous kiffez The Witch, regardez tout de suite derrière Black Death parce que c'est vraiment pas mal du tout.
Merci beaucoup à tous les deux. Notre temps est écoulé. Merci à Jules à la technique et merci autant que pour l'accueil. Prochain de ciné tout bientôt, version longue ou courte. On varie les plaisirs. C'est notre côté aventurier du podcast. Et si vous vous ennuyez de nous, un petit saut sur nosciné.com. Il y a forcément une ancienne émission qui vous a échappé ou que vous souhaitez réécouter avec bonheur. Ça tombe bien. Elles y sont toutes, n'hésitez pas à aller également sur les réseaux sociaux pour nous laisser des petits messages, ça nous fait toujours plaisir, vous le savez. On rappelle que Nos Ciné, c'est un podcast du réseau Binge Audio, retrouvez aussi sur binge.audio et d'ici là, on vous dit à très vite.
Salut, c'est Jean Z, No Game, c'est votre émission hebdo sur les jeux vidéo qu'on aime.
J'adore les phrases dépassantes, je pourrais les écouter pendant des heures.
Qu'on déteste.
C'est horrible, les personnes, moi j'ai l'impression que c'est un simulateur de con, quoi.
Ou les deux à la fois. No Game que vous pouvez retrouver sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter. À la semaine prochaine.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.